Donc bonjour, tout d'abord je voulais souhaiter remercier les organisatrices de cette journée d'avoir fait appel à moi. J'espère pouvoir apporter quelques petits éléments qui nourriront le débat. Donc comme l'a dit Patricia, je suis sociolinguiste avec une... J'ai fait quelques petites excartades dans la didactique des langues et du plurilinguisme. Donc c'est plutôt en tant que sociolinguiste que je vais essayer de parler aujourd'hui. Je voudrais donc la commande, si on peut dire, c'était de réfléchir à cette question des inégalités et des rôles que peuvent prendre des mécanismes, des dynamiques sociolinguistiques dans la construction ou la reproduction de ces inégalités à l'école, donc dans les dimensions sociolinguistiques de ces inégalités. Assez récemment, le système éducatif français a encore été un peu montré du doigt dans des évaluations, justement, pour son caractère inégalitaire, hein, dans l'étude PISA 2013, qui montre des très fortes disparités entre les élèves qui réussissent et ceux qui échouent. Donc une très forte disparité entre les élèves qui réussissent et ceux qui échouent, avec des déterminismes ou des causes qui sont à la fois les origines sociales des élèves, les origines spatiales, qui bien souvent se mêlent, et puis une troisième couche, si je puis dire, de facteurs qui sont d'ordre ethno-linguistique. Et ces trois facteurs clivants se recoupent bien souvent pour créer effectivement des inégalités fortes entre des élèves qui sortent plutôt bien du système scolaire et d'autres qui ont des problèmes pour réussir, pour avancer, ce qui alimente énormément de débats sur l'éducation, sur l'enseignement du français, des langues, entre autres. Voilà. Autant de questions qui, on va le voir, concernent la sociolinguistique. Donc, je vais faire une présentation d'abord un peu de ce qu'est la sociolinguistique, une présentation assez brève, mais en même temps en essayant de présenter quelques jalons, quelques notions qui peuvent nous permettre de penser la transformation de différences sociolinguistiques qui existent en inégalité, voire parfois en discrimination. J'aborderai la question des enjeux d'une sensibilisation ou du développement d'une sensibilité sociolinguistique à l'école, alors quand je dis à l'école, je pense aux formateurs de formateurs, aux enseignants, mais aussi aux élèves. Et puis, on verra, j'espère que j'y arriverai, comment on peut penser la sociolinguistique comme une ressource pour analyser ces inégalités et pour les travailler. Ma première partie consistera à dresser un peu un portrait de la sociolinguistique. Je passerai assez vite. Je ne sais pas si c'est prévu, mais je serai assez pour que vous m'interrompiez si c'est nécessaire. Je ne sais pas quelles sont les modalités prévues. D'accord, donc je vous propose ça. Donc si vous avez des questions ou des demandes de précision, ça me semble une formule plutôt plus productive comme ça. Sociolinguistique. La sociolinguistique est une discipline relativement récente qui s'est construite comme une, on pourrait dire, linguistique de l'hétérogène, puisque très tôt, elle s'est intéressée à l'étude empirique du langage et des langues, donc qui était déjà l'objet de la linguistique. Donc, pour en donner une idée très large, hein, on peut dire que c'est une discipline qui étudie le langage et les langues dans leurs usages, hein, ça c'est un élément important, généralement, dans différents contextes d'utilisation. Épistémologique, qui fondamentalement amène la sociolinguistique à décrire l'hétérogénéité et en quelque sorte l'organisation de l'hétérogénéité au sein des sociétés, des entités sociales, mais aussi dans les pratiques d'individus. Donc ces individus ils s'inscrivent toujours dans des collectifs, dans des groupes, et un des objectifs de la sociolinguistique, un des objets, est de comprendre comment ces individus au sein de collectifs fonctionnent avec un ensemble de ressources qu'ils ont à leur disposition, des ressources langagières, dont on verra qu'elles peuvent ressortir d'une langue ou de plusieurs, bien souvent de plusieurs, et que même lorsqu'elles ressortissent d'une seule langue, elles sont toujours fondamentalement hétérogènes. Donc comment ces individus fonctionnent dans les groupes, comment ils parlent, comment ils comprennent, comment ils échangent, comment ils s'inscrivent dans ces groupes, voilà, et comment chacun et chacune de nous construit et reconstruit ses appartenances et ses ressources tout au long de sa vie. Une partie importante de la sociolinguistique, c'est aussi donner pour objectif de comprendre ou d'expliquer, selon les paradigmes convoqués, la variation linguistique et son rôle dans le changement. Une des petites révolutions, on pourrait dire, de la sociolinguistique, c'est d'avoir considéré que l'hétérogénéité qu'on peut observer dans une langue, ce qu'on appelle la variation, c'est parfois le changement en train de se faire, et notamment en lien avec la façon dont ces variations sont socialement distribuées dans la société. Donc tout ça reste encore assez vague, je vais entrer un tout petit peu plus dans le détail et voir quelques-unes des pistes, quelques-uns des objets qui ont été élaborés, construits au cours d'une cinquantaine d'années, depuis en gros le début des années 60. Donc parmi ces objets, je l'ai déjà dit, il y a les différences dans les pratiques langagières de sujets et de sujets qui composent des groupes. Des groupes qui peuvent être géographiques, alors ça c'est assez traditionnellement la suite de la dialectologie classique qu'a emprunté la sociolinguistique, mais également des groupes sociaux. Alors aujourd'hui, derrière le social, on met beaucoup de choses, effectivement. Donc il y a bien sûr les aspects socio-économiques, la hiérarchisation socio-économique, mais la sociolinguistique s'est aussi très tôt intéressée au phénomène générationnel. Et aujourd'hui, un des champs très productifs, c'est les différences liées au genre, thème qui traverse aussi les questions d'éducation, mais auquel je m'intéresserai pas aujourd'hui. Et puis l'autre facteur, on pourrait dire, d'hétérogénéité, de différence dans les pratiques langagières, serait un facteur qu'on pourrait appeler ethno-national, le terme ethnique étant un gros mot de ce côté-ci des Alpes, par exemple. Le facteur ethno-national, donc ethnique, ou est parfois une cause, un facteur de différenciation linguistique. Donc très rapidement, je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais un des construits, c'est la notion de variable. La variable étant vraiment un construit théorique de la sociolinguistique qui décrit, en fait, ça sert à décrire la distribution de deux formes concrètes. Typiquement, vous pouvez prononcer rose, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, rose comme moi ou rose comme Patricia, par exemple, qui vient du sud. Bon, on a une même signification, mais on a deux formes qui sont pour le coup strictement équivalentes au plan sémantique, mais qui vont indexer une origine, une appartenance sociale, géographique. Dans ce cas-là, elle est plutôt géographique. Mais ce qui se passe, c'est que très très souvent, ces trois facteurs que j'ai décrits, enfin ces trois ou plus de trois facteurs, ne fonctionnent pas isolément, mais se superposent, se croisent, s'imbriquent, ce qui fait qu'en gros, on a une imbrication de causes pour donner de l'hétérogénéité. Il y a un quatrième facteur que j'ai pas noté ici, sur lequel je reviendrai un peu plus en détail après. C'est le facteur, là on était sur de la variation, pardon, inter-individuelle, qui fonde des différences entre groupes. Il existe aussi une variation intra-individuelle, on parle de variation stylistique, ou situationnelle, ou encore diaphasique, peu importe les termes qu'on emploie, mais l'idée c'est qu'un même individu, on le sait tous, va naviguer entre des formes, va choisir à tel moment de mobiliser telle forme ou telle autre forme, et dans certains cas, lorsque cet individu a à disposition des ressources qui ressortissent de plusieurs langues, il pourra mobiliser éventuellement différentes langues. je suis en train de vous parler français, ça m'a paru un choix à peu près adapté à la situation, en gros. On aurait pu imaginer que je fasse un autre choix dans une autre situation. Donc, voilà cette notion de variable. Et la sociolinguistique s'est attachée à étudier la distribution des différentes formes, la distribution... Alors tout d'abord, étudier de manière qu'on voit un peu rétrospectivement, un peu simpliste, entre guillemets, c'est-à-dire en associant de manière co-variationniste des formes et des identités préexistantes à l'utilisation de ces formes. Je ne vais pas rentrer dans les détails méthodologiques, ça pourra faire l'objet de questions éventuellement, mais ce n'est pas l'idée ici. Un autre grand champ de la sociolinguistique, très tôt dans son histoire, c'est de s'intéresser à la perception et au ce qu'on appelait plus tard les représentations et les attitudes à l'égard des différentes formes linguistiques utilisées. Et on sait très bien que, nous savons que les formes linguistiques, alors même si elles ont la même signification, on pourrait dire sémantique, elles n'ont pas toutes la même signification et la même valeur sociale, et je détaillerai un peu cet aspect-là, qui me semble un des aspects fondamentaux de la création, de la transformation en quelque sorte de différence, d'hétérogénéité, en inégalité, voire parfois en discrimination. Donc ces perceptions, elles vont avoir souvent tendance à hiérarchiser les formes, hein, à les classer de façon plus ou moins... avec plus ou moins de valeur. Cette hiérarchisation des formes et des variétés, donc qui s'étudie dans la distribution de la matérialité de la parole, en quelque sorte, hein, on va enregistrer des gens, savoir qui parle comment, à quel moment, dans quel endroit, dans quelle situation. Donc la sociolinguistique s'est aussi attelée à appréhender la façon dont ces formes sont perçues. Et à construire tout un champ autour. Alors ça prend divers noms selon qu'on est de ce côté-ci ou de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple. Mais en gros, c'est ce qu'on pourrait grouper sous l'étude des représentations, des attitudes ou des idéologies linguistiques. Alors la sociolinguistique est au croisement de plusieurs disciplines des sciences humaines, mais ces notions-là d'idéologie, de représentation et d'attitude sont particulièrement transversales dans les sciences humaines, et c'est un exemple aussi de ce que elle résulte de la collaboration avec d'autres disciplines, de l'interaction entre des savoirs et des notions. Enfin, une partie de la sociolinguistique, une partie importante au départ même, qui s'appelait pas encore la sociolinguistique, mais la sociologie du langage, s'intéresse à ce qu'on appelle aujourd'hui l'aménagement linguistique. Alors l'aménagement linguistique, on le connaît peut-être en France plus souvent sous le nom de politique linguistique, à savoir que l'aménagement linguistique consiste en des interventions le plus souvent délibérées, sur la langue elle-même, donc sur une langue, hein, sur son système. Alors on peut penser à des interventions sur la grammaire, hein, intervention peut-être plus connue sur le lexique en France avec dans les années 90 la loi Toubon en 94 qui par exemple va réglementer l'usage ou plutôt le non-usage des anglicismes et faire en sorte de créer des commissions de terminologie pour proposer des alternatives à ces affreux emprunts anglais. Voilà. Autre exemple d'intervention sur ce qu'on appelle le corpus de la langue, hein, c'est-à-dire son système, dans les années, et qui concerne directement l'éducation, pour le coup, dans les années 70, je crois, un petit article paraît dans un journal d'enseignants qui répand la bonne nouvelle que la liaison avant haricot est autorisée. On serait donc fondé à dire des haricots. Et puis, la sentence un jour va tomber. L'Académie française se fend d'un communiqué qu'on peut encore lire sur son site, disant, contrairement à ce qu'a prétendu le journal, je ne me souviens plus de son nom, il n'y a aucune raison de faire une liaison avec haricot puisque le H est aspiré et que on ne dit pas un haricot, mais un haricot, etc., etc. Donc, c'est un exemple d'intervention ici qu'on pourrait appeler prescriptive hein, sur le système de la langue. C'est une prescription sur la façon d'utiliser un système linguistique. Donc ça, c'est ce que des sociologues du langage ou des sociolinguistes ont appelé des interventions ou de l'aménagement du corpus linguistique. Donc on peut penser aussi aux rectifications orthographiques de 1990, toujours pas ou peu appliquées. Hein, ce qui nous amène à une autre distinction, peut-être, c'est les politiques ou les planifications linguistiques à visée symbolique et celles à visée pratique. Et pour le coup, on est dans quelque chose qui est resté plutôt à portée symbolique jusqu'à aujourd'hui, en tout cas en France, puisque dans les d'autres pays francophones européens, c'est mieux appliqué, me semble-t-il. En Belgique, les enseignants sont aujourd'hui tenus d'enseigner les formes rectifiées. Donc voilà, ça c'est pour l'aménagement du corpus. Et puis l'autre branche, si je puis dire, de l'aménagement linguistique, c'est celle qui concerne la place des langues, donc la place respective hein, dans une situation de coexistence linguistique, la place que vont prendre les différentes langues. Donc certaines vont se voir attribuer, par exemple, la fonction de langue officielle, le statut de langue officielle. C'est le cas du français en France, le seul langue officielle. Il y a parfois des situations de bi ou de multilinguisme officiel. Et puis, cet aménagement du statut de la langue ou des langues peut opérer à différentes échelles. Hein. Il peut y avoir un statut pour une langue dans une ville. Le cas de l'Espagne, par exemple, on va avoir des régions officiellement bilingues. Et puis, on peut avoir aussi au niveau d'un État, bien sûr, et puis au niveau d'organisations internationales, telles que l'Union européenne, par exemple, le Conseil de l'Europe, le Comité international olympique, des organisations non gouvernementales, etc. Cet aménagement du statut s'applique dans différents domaines, que ce soit les domaines administratifs, juridiques, mais aussi, et ça nous intéresse plus particulièrement, les domaines de la scolarisation, de l'école. On parle de politique linguistique éducative. Et par exemple, il s'agit de savoir dans quelle langue on enseigne. La question se pose au moment où un État se crée, où un pouvoir change. Quelles langues sont enseignées ? Vous savez qu'on est en France censé enseigner une langue vivante dès l'école primaire. Or, vous savez aussi que cette langue vivante est dans 97 ou 98% des cas l'anglais. Donc il y a bien l'idée que on doit enseigner une langue vivante. On a parlé à un moment de diversification de ces langues vivantes et on voit que là encore la portée pratique de cette diversification est restée plutôt lettre morte. D'autres objets en fait de la sociolinguistique que j'ai déjà évoqué, c'est la distribution des différentes formes en lien avec les représentations de ces formes et les associations probabilistes, c'est-à-dire qui utilise quelle forme. Ces formes vont se charger d'une signification sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Certaines vont être considérées comme des formes de prestige, ce qui aura toute chance d'entraîner leur diffusion, et d'autres seront considérées comme des formes peu prestigieuses, voire des formes stigmatisées, ce qui, en théorie, devrait conduire à leur non-diffusion, voire à leur disparition. Or, très souvent, ça ne se passe pas aussi simplement que ça, et une des questions que pose la sociolinguistique à l'école, ou à la sociolinguistique de l'école, c'est comment se fait-il que des formes qui sont stigmatisées, que la norme prescriptive repousse hein, depuis des années, des dizaines d'années, continuent de venir, entre guillemets, perturber la bonne marche de l'enseignement de la langue légitime, hein, de la langue dite standard. Donc cette question de prestige, on y reviendra peut-être. Mais c'est dans la théorie sociolinguistique, on pourrait dire, dominante, hein, le variationnisme, ces questions de prestige sont au cœur du changement linguistique. Et donc, vous voyez, je conclue à ce point en disant que certaines formes à faible prestige se maintiennent, se transmettent. Quand je dis se transmettent, c'est de parents à enfants, et voire même se diffusent, c'est-à-dire là, vont se sortir de leur population d'usage entre guillemets d'origine. C'est toujours dur de déterminer l'origine d'une variante ou d'une forme, hein, mais typiquement une des formes qui se diffusent aujourd'hui en français parlé, c'est ce qu'on appelle les affrications, c'est-à-dire le fait d'articuler, de faire une occlusive avec une fricative et de dire voiture au lieu de dire voiture. Donc là, je l'ai dit de façon assez, c'est assez proche encore. Vous entendrez souvent, peut-être dans des cours de récréation, la voiture, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'occlusion. Hein, et, alors, une des questions qu'on se pose, c'est que c'est une forme qui, d'un côté, est stigmatisée, mais c'est une forme qui, d'un autre côté, se diffuse, y compris dans des milieux dans lesquels on ne les attendrait pas. Et puis, ça pose évidemment la question du prestige, de quel est le prestige en jeu, hein, et de qu'est-ce que ça peut produire sur la langue. En fait, la langue, dans une conception sociolinguistique, c'est un objet, en équilibre dynamique, un peu comme un vélo, hein, qui tant qu'on l'utilise, bouge. Enfin, pour pouvoir l'utiliser, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait une forme de jeu fonctionnel. C'est-à-dire que une fois qu'une langue ne varie plus, ne change plus, c'est qu'elle n'est plus utilisée, en gros. Voilà. Alors, ces aspects de prestige, ces questions de prestige, ces aspects idéologiques, les représentations, les attitudes à l'égard des formes, vont avoir des effets qu'on pourrait qualifier de psychosociaux sur les personnes, les locuteurs qui utilisent ces formes. Ces aspects, on peut aussi les qualifier d'identitaires. Alors, je mettrai des guillemets parce que je ne veux pas m'étendre sur cette question-là, on pourra en rediscuter. Mais notamment, dans le milieu scolaire, le fait d'être, de produire des formes qui vont être stigmatisées ou qui vont être souvent de peu de prestige, qui vont être moqués, peuvent générer des questions en termes de reconnaissance, d'estime de soi. L'appartenance, les sentiments d'appartenance ou d'exclusion va pouvoir se jouer également sur des aspects linguistiques parfois, en tout cas sur certaines composantes de l'appartenance ou de l'exclusion. Un très vieux texte qui est la Bible fait état déjà de cette manière de partager les bons et les mauvais sur le simple, ce qu'on appelle un shibboleth aujourd'hui, hein, c'est-à-dire le simple fait de prononcer shibboleth qui veut dire épi, qui voulait dire épi en vieil hébreu, le prononcer shibboleth ou sibboleth permettait de distinguer les Galadéens des Éphraïmites, et lorsque les mauvais étaient démasqués, ils étaient passés par les armes. Ça existe encore de nos jours dans divers contextes. C'est ce qu'on appelle un shibboleth, voilà, d'où ce nom. Donc, ça permet d'une part de se sentir appartenir, mais aussi ces différences peuvent générer de l'exclusion. Les formes linguistiques, lorsque plusieurs sont en présence et lorsqu'elles sont prises dans des phénomènes, on pourrait dire groupaux, vont donner lieu à de la discrimination, c'est-à-dire que on va en quelque sorte se servir de ces formes, et les membres des groupes vont avoir tendance à minimiser les différences qu'ils ont entre eux, puisqu'il existe toujours des différences inter-individuelles, et à maximiser les différences qu'il y a avec les membres d'autres groupes ou considérés comme tels. Hein. Phénomène de discrimination sociale, de catégorisation sociale. Et donc ça peut donner lieu à des phénomènes d'accommodation, de convergence ou de divergence, c'est-à-dire que pour me sentir ou me montrer comme plus proche de X ou de Y, je vais choisir soit de me rapprocher, enfin soit de produire des formes plus proches des siennes, par exemple, ou au contraire de m'en éloigner. Les aspects que j'évoquais tout à l'heure de reconnaissance et d'estime de soi jouent, il y a pas mal d'études en psychologie qui ont montré ça, peuvent jouer sur la motivation, notamment la motivation à apprendre. Et puis enfin, le dernier point que je voulais développer sur cette question-là, c'était la façon dont les jugements que produisent des auditeurs, hein, des gens qui perçoivent des formes, vont souvent être biaisés, alors par des effets d'attente, hein, des effets d'image sociale par exemple, des effets de halo, c'est-à-dire qu'on va utiliser, on va projeter sur une personne une information dont on dispose. Et on va percevoir de façon biaisée une autre information que nous donne sa présence ou sa manière de parler. C'est-à-dire qu'on va entendre certaines formes ou certaines variantes de manière plus saillante si on considère que la personne est autre, et au contraire, on aura tendance à moins l'entendre, à moins la percevoir si on considère qu'elle est même. Voilà, avec les effets Pygmalion que ça peut produire, hein, effet d'étiquetage. Donc, après avoir dressé ce portrait, puis commencé à poser quelques petits jalons qui nous amenaient du côté de l'école, je voudrais maintenant parcourir quelques notions, pas beaucoup, sans doute assez rapidement, pour voir comment elles peuvent être utiles pour penser encore une fois cette diversité ou cette hétérogénéité linguistique, et comment parfois les inégalités naissent d'une non-utilisation, en quelque sorte, de certaines de ces notions. Donc la première notion, enfin les notions que je vais vous proposer sont des notions très anciennes dans la sociolinguistique, mais qu'il me semble encore tout à fait pertinent de présenter, de définir, puisqu'elle fonctionne bien et elle permet justement de penser cette à la fois la diversité et les inégalités. La première notion est celle de répertoire verbal. Donc tout locuteur dispose d'un certain nombre de ressources. Ces ressources lui permettent d'interagir, de communiquer dans les situations auxquelles il est confronté, auxquelles il participe, hein, situation sociale. Donc ce répertoire verbal, il est composé à la fois des langues qu'est capable d'utiliser un locuteur. Alors quand je dis des langues, ce peut être des langues qu'il va utiliser à différents niveaux de maîtrise, évidemment. Et puis en production ou en réception, hein, c'est-à-dire qu'on est souvent capable de comprendre plus que ce qu'on ne peut produire, par exemple lorsqu'on est dans une phase d'apprentissage. Et lorsqu'il s'agit d'un locuteur monolingue qui existe, ce répertoire verbal va comprendre non seulement les formes linguistiques, mais aussi ce qu'on pourrait catégoriser comme des registres ou des styles que ce locuteur est capable d'utiliser. Et on peut considérer en fait que ce qu'on appelle le monolinguisme ou le polyglottisme, que je vais distinguer du plurilinguisme, polyglottisme qui serait une maîtrise idéale, parfaite, équilibrée, je mets des guillemets à tout ça parce que ça me semble assez difficile, mais c'est la représentation qui est encore prégnante aujourd'hui du plurilinguisme, elle est encore très liée à ce polyglottisme. Ben, monolinguisme et polyglottisme seraient des configurations, des actualisations plutôt rares et exceptionnelles du répertoire verbal. Un monolinguisme total d'une personne ne connaissant aucun mot, aucune expression d'une autre langue est relativement rare dans les sociétés, on pourrait dire, mobiles, médiatisées dans lesquelles on vit. Alors, ça ne veut pas dire que tout locuteur est capable de communiquer dans plein de langues, mais c'est un peu deux pôles d'un continuum. Ce répertoire verbal, il faut l'entendre comme une partie, une composante d'un ensemble plus vaste qui est la compétence de communication. Alors cette compétence de communication, elle va comprendre d'une part ce répertoire et d'autre part un ensemble de règles d'usage, ça fait un peu rigide comme ça, hein, mais c'est de règles qu'on pourrait considérer comme socioculturelles qui permettent une utilisation appropriée du répertoire verbal, des ressources que comprend le répertoire verbal. Et vous voyez, j'ai mis ici la citation de Dellheims, qui, dans une perspective d'acquisition, hein, dit que, en fait, cette compétence de communication, c'est un ensemble qui est acquis par l'enfant dans différentes sphères de socialisation, on verra. Donc cet enfant acquiert non seulement une connaissance de phrases, de phonèmes, etc. Et donc ces phrases, il les apprend comme grammaticales, donc conformes à un système linguistique, à des règles qui sont pas forcément explicites. Hein. Mais il les apprend aussi comme appropriées ou non. Hein. Et dans un autre endroit, Himes écrit qu'un enfant qui parlerait parfaitement sa langue mais qui utiliserait des formes inappropriées par rapport aux situations sociales dans lesquelles il est engagé, serait une sorte de monstre social. Hein? Donc on pourrait très bien être un monstre social maîtrisant parfaitement la grammaire d'une langue. Donc cette compétence de communication sous-tend des capacités à utiliser des éléments linguistiques de manière appropriée, ce qui suppose une compétence sociale, une compétence culturelle au sens large du terme, au sens anthropologique du terme, de lecture, d'interprétation des situations, d'identification de genre en cours, en jeu dans ces interactions. Typiquement, les salutations aux salutations peuvent succéder un cours, une conférence, ou une discussion informelle, une conversation, une discussion politique, une somme de genres comme ça, qui vont de proche en proche s'organiser linguistiquement et discursivement de manière un peu différente. Donc il y a cette compétence sociale de lecture et d'interprétation des situations, et puis une compétence d'adaptation des ressources qui vont être mobilisées pour faire face à cette situation. Et on revient là à la notion de variation stylistique ou situationnelle, à savoir le fait de pouvoir mobiliser différentes formes et des formes différentes selon les situations. Alors très longtemps, on a vu cette compétence comme uniquement responsive, hein, c'est-à-dire une adaptation un peu mécanique des locuteurs à la situation. En gros, on me met dans une situation et j'ai une réponse un peu comportementale comme ça, d'adaptation. Mais depuis une vingtaine d'années maintenant, on considère que cette variation stylistique, elle n'est pas que responsive, mais elle peut être aussi initiative, hein, ou stratégique. C'est-à-dire que mobiliser certains traits à certains moments va permettre de redéfinir la situation, de la faire changer, choisir d'utiliser telle ou telle forme peut constituer une stratégie, par exemple, de subversion d'une situation, de renversement. Et c'est ce qui peut se passer parfois dans des classes ou dans des cours de récréation également. J'ai un schéma sur lequel je reviendrai peut-être plus tard, mais je vois que le temps passe, donc je vais avancer. L'autre de cette compétence de communication, donc la notion date des années 60, hein, les premières formulations, je crois que c'est 66, a été développée dans un autre contexte, une notion que vous connaissez sans doute, qui a été, on pourrait dire, popularisée par l'aménagement linguistique, la politique linguistique et l'idéologie au niveau du Conseil de l'Europe, à savoir que a été conceptualisée la notion de compétence plurilingue et pluriculturelle. Se basant sur cette notion de compétence communicative ou compétence de communication, la compétence plurilingue et pluriculturelle va introduire la notion de pluralité linguistique de répertoire plurilingue, de capacité à interagir, mais à la fois linguistiquement et culturellement, avec cette idée qui est là explicitement, en tout cas elle n'était pas si explicite dans la définition de la compétence de communication, mais là elle est explicitement, et elle est même au cœur de la définition de la compétence plurilingue, cette idée que l'acteur social qui a une compétence plurilingue maîtrise à des degrés divers plusieurs langues, et fait à des degrés divers l'expérience de situations culturelles différentes, avec l'idée qu'il est capable de gérer ce capital langagier de manière efficiente et adaptée. Comme vous pouvez le lire, hein, l'option majeure est ici de considérer qu'il n'y a pas superposition ou juxtaposition. Donc là, on a quelque chose qui vient des études sociolinguistiques du bilinguisme, hein, dans les années 80 notamment. Mais c'est bien une compétence intégrée, unique, composite et hétérogène, avec des compétences qui sont souvent partielles, hein, dans les langues, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une compétence totale dans les différentes langues que l'on maîtrise à divers degrés. Donc cette compétence plurilingue et pluriculturelle, c'est entre autres choses celle qui fonde elle a été élaborée dans le cadre des travaux préparatoires au CECR, au cadre européen commun de référence, et ce sont des éléments de cette compétence qui sont évalués dans le référentiel et les descripteurs du CECR. Autre notion importante qui vient également, comme celle forgée par Dale Himes tout à l'heure, que je vous ai présentée tout à l'heure, de l'anthropologie linguistique, c'est la notion de socialisation langagière. Cette notion de socialisation langagière, c'est une des notions qui me paraît permettre de penser le développement langagier individuel, aussi bien l'acquisition informelle que les apprentissages formels guidés, de façon intégrée, et de façon intégrée avec l'insertion sociale, l'intégration sociale et culturelle au sein d'un groupe ou de différents groupes. Cette notion a été définie par notamment Hawkes et Shiflin dans les années 80. Quelques textes, elle est très longtemps restée peu usitée en sociolinguistique francophone. Il y a quelques textes qui ont été traduits ou écrits récemment qui permettent d'y accéder et qui montrent en fait que la socialisation langagière est une notion qui permet d'appréhender aussi bien des aspects cognitifs, psychologiques, socioculturels, des acquisitions et des apprentissages, des aspects linguistiques, donc construction du répertoire verbal et de la compétence de communication, que ce soit dans des situations monolingues ou plurilingues. Elle vient donc jouer en complément, en fait, la socialisation langagière, c'est le processus par lequel se construisent les compétences que je viens de définir. Cette notion permet aussi de prendre conscience de la diversité des instances de socialisation langagière et des rôles que les pratiques langagières et symboliques donc jouent dans ces sphères. Et donc ici, un des aspects qui me semble important, c'est que l'école est une des sphères de socialisation langagière parmi d'autres, et que bien souvent elle se retrouve en fait en conflit en quelque sorte, ou en lutte contre ce qu'ont fait d'autres instances de socialisation langagière. Et peut-être que là il y a des pistes à explorer en termes de si je puis dire, de synergie, c'est un mot à la mode, je suis désolé. Donc cette notion de socialisation langagière, je pourrais vous communiquer des références, et elle me semble intéressante à explorer. On peut travailler notamment des notions comme les biographies langagières avec cette notion de socialisation. La sociolinguistique, et là je vais passer très vite, hein, mais elle a aussi beaucoup travaillé les interactions entre la construction d'identité, la construction qui n'est pas toujours complète, et on remet pas toujours en question toute son identité à tout moment. Il n'est pas question de dire ça. Hein, on est bien sûr déterminé, mais pas entièrement. Donc il y a toujours une part de déterminisme et de de liberté, en quelque sorte. Et c'est notamment à travers les usages linguistiques qu'on va pouvoir bouger dans les groupes, bouger, se développer, développer sa conscience s'inscrire dans différents groupes. Ces identités qu'on pourrait considérer comme langagières, elles jouent à différents niveaux, hein, aussi bien des niveaux très micro au niveau de l'individu qu'à des niveaux très macro comme l'identité nationale. Et là encore, il y a un point d'entrée avec l'école, hein, puisque un des points de crispation sur le français en France, c'est bien qu'il est un symbole et qu'il indexe très fortement cette notion d'identité nationale. Et c'est ce qui explique peut-être parfois qu'on assiste à certaines crispations. Il me semble que dans le mot langue faisait partie dans le débat sur l'identité nationale qui a été initié en 2009 par Besson, Éric Besson, faisait partie des mots cités entre 5 et 7 000 fois sur 26 000 occurrences. Donc c'est une occurrence très forte. Hein, ça fait partie des éléments qui permettent aux Français de définir leur identité, la langue française. Alors, langue française, au passage, considérée comme unique, alors qu'on sait bien qu'il n'existe pas un Français, ni le Français, mais des Français, qu'on songe aux Français sont en usage dans d'autres pays, ou qu'on songe aussi aux Français qui sont en usage ici même autour de nous et parmi nous. Aucun de nous ne parle vraisemblablement exactement la même langue. Voilà. Cette troisième partie sur les différences, les inégalités à l'école et dans la société. En gros, l'égalité linguistique des langues, l'égalité potentielle est devenue en quelque sorte une évidence, un lieu commun pour les linguistes, hein, c'est-à-dire que toutes les langues sont des systèmes qui combinent des morphèmes, des phonèmes, et en cela, elles ont des règles de combinaison, elles permettent à des groupes humains de référer, de signifier, de communiquer, de se reconnaître, de s'identifier. Donc c'est les langues se valent, elles sont égales, voilà. Ça c'est aussi évident pour la plupart des linguistes que le fait que les hommes naissent libres et égaux en droit pour un défenseur des droits de l'homme. Mais on va voir que cette vision égalitariste en quelque sorte, elle demeure très virtuelle dans le monde réel, en quelque sorte, en dehors de la sphère des linguistes, et qu'elle n'est donc pas toujours partagée par monsieur et madame tout le monde. Donc je commence par monsieur tout le monde, qui nous parle du patois sans grammaire. C'est une interview d'un ouvrier paysan réalisé par Sylvie Mougin, cité par Jacqueline Billiez, dans un article de 2004. Et je vous laisse lire un peu l'extrême. Vous voyez que cette partie de l'entretien porte sur la différence entre un patois et une langue, qui pour des linguistes sont deux systèmes linguistiques doublement articulés et qui permettent d'exprimer les réalités environnantes, on va dire, de symboliser, voilà. Et cet homme nous dit qu'il fait une différence entre la langue et le patois parce que la langue, elle, a une grammaire. Alors que dans le patois, comme vous pouvez le lire, il n'y a pas de règle. Enfin, l'intervieweuse lui demande s'il n'y a pas de règle. Dit non, ben, on le dira n'importe comment, personne n'est répréhensible. Donc on voit ici, c'est un discours, en fait, c'est une expression très, très ordinaire, hein, des représentations et du clivage. Alors, on pourrait aller jusqu'à parler d'un clivage presque nature-culture ici entre les langues grammatisées, les langues d'État et puis les langues qui sont utilisées par les paysans dans la campagne. On voit que cet homme exprime le rapport de suggestion, en quelque sorte, à une norme linguistique unique, prescriptive et surtout explicite. Hein. Lorsqu'il dit « il n'y a pas de grammaire », c'est qu'en gros, le patois, il n'y a pas de manuel de grammaire. On lui a jamais enseigné la grammaire. C'est pas que tous les linguistes vous diront qu'il y a bien une syntaxe et une grammaire. Donc on voit ici que cette différenciation, elle va se coupler en quelque sorte. Elle va déboucher sur une forme d'auto-dévalorisation qui a été intériorisée après plusieurs siècles de, alors au mieux de dénigrement, au pire de répression, d'assimilation linguistique et culturelle que certains sociolinguistes aujourd'hui appellent glottophobie. Donc là, on est dans le monde paysan, c'est dans les années 80. On pourrait penser que Monsieur Tout le Monde est le seul, enfin Monsieur Tout le Monde, le sens commun est le seul à avoir cet avis un peu discriminant. Mais on va voir que de façon beaucoup plus récente, on peut passer des patois sans grammaire au borborygme des patois africains. On est toujours avec des patois, mais là on n'est plus du tout chez quelqu'un qu'on pourrait soupçonner d'être assez peu éduqué, d'avoir peu fréquenté les cours de sociolinguistique. Ici on a affaire à un auteur, un journaliste, bardé de prix et de médailles, officier de la Légion d'honneur. En fait, cette réaction, c'est une réaction à un rapport assez récent qui a été remis au Premier ministre, à l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, sur une refondation de la politique d'intégration en France, et qui proposait en gros de reconnaître, effectivement, d'assumer la dimension arabe orientale de la France, à savoir que bon, il y avait une population arabo-musulmane en France importante. Que l'histoire commune entre la France et le Maghreb était un fait, et que il servait peut-être plus aujourd'hui à rien de le nier complètement. Et donc vous voyez que Monsieur Thierry Desjardins, donc c'est son nom, qui est rédacteur, qui a été rédacteur en chef au Figaro, peu importe, mais s'offusque. Voilà, excusez du peu, hein, du fait qu'on puisse envisager d'assumer la dimension arabe-orientale, et surtout de considérer les borborygmes des patois africains sur le même plan que la langue française. Je vous épargnerai la définition de borborygme, enfin, je vais quand même vous dire que ce sont des bruits intestinaux, et puis pointer aussi le fait que ces bruits intestinaux, l'étymologie de ce mot est la même que le mot barbare. Hein, le barbare, mot dont les Grecs désignaient les non-Grecs sur la base de ce qu'ils ne comprenaient pas de leur forme d'expression. Donc à nouveau, on a une vision hiérarchisante, une vision ethnocentriste qui est très présente dans les élites intellectuelles, le personnel politique, et on a encore en mémoire ce qui s'est passé il y a 10 ans maintenant avec le rapport de Jacques-Alain Bénissy sur la prévention de la délinquance juvénile, qui recommandait aux parents de ne surtout pas parler leur langue familiale à leurs enfants, langue familiale qu'il appelait aussi le patois du pays. Cette injonction avait pour but de les sauver en fait de la délinquance à laquelle ils étaient promis. Donc on voit ici que cette hiérarchisation, cet ethnocentrisme, il est partagé très largement. Et comme il est très prégnant encore dans la société, et bien qu'il soit souvent euphémisé, on le retrouve aussi évidemment à l'école. Donc malgré des avancées indéniables, les représentations monolingues, la perception monolingue du plurilinguisme ou des compétences plurilingues ont encore la peau dure. Comme le montre d'abord ce petit extrait en fait qui concerne la non-transmission d'une langue dite d'immigration. Il s'agit ici du sicilien. Je vous laisse un instant pour lire. Vous voyez qu'ici, la jeune fille qui parle, donc qui est née en France mais de parents siciliens, ses parents ont commencé à lui parler sicilien, et puis sur le conseil de ses enseignants, les parents ont cessé de transmettre le sicilien. Et on voit que cette jeune fille regrette ça. Elle le regrette d'autant plus que le moment où cette enquête a été réalisée, en 1999, c'est le moment où commençait à généraliser, encore de façon expérimentale, mais où ça commençait à se généraliser, l'enseignement précoce de l'anglais. Donc cette jeune fille, pas bête après tout, dit « mais je comprends pas bien, en fait, On m'a interdit de parler ma langue, on a interdit à mes parents de me transmettre ma langue, alors que aujourd'hui on enseigne l'anglais à des enfants, à des jeunes enfants. Donc ici, ça pointe cette question du deux poids deux mesures, lié à la hiérarchisation des langues. Plus récemment, on pourrait se dire que ça évolue, et effectivement, ça évolue. Hein, les représentations évoluent, mais elles évoluent très lentement. Je vais faire état d'une petite enquête qui a été réalisée par une étudiante de master, qui par ailleurs est professeure des écoles. Donc elle a travaillé dans son école et dans des écoles environnantes, en se posant la question de la combinaison des facteurs, en quelque sorte, hein, de ségrégation. À la fois les aspects spatiaux, les aspects ethniques, scolaires, et puis de relégation socio-économique. L'idée était d'étudier les représentations d'enseignants d'école primaire, donc premier degré, représentation des langues familiales des élèves, et de tester la perception dont on faisait l'hypothèse qu'elle serait différenciée du bilinguisme selon les langues présentes dans le répertoire verbal des élèves. Donc le terrain, c'était l'agglomération grenobloise, hein, dans des communes, alors l'agglo elle-même et puis des communes proches dans le périurbain, dans des écoles qu'elle a qualifié de monolingue et de plurilingue, partant de l'idée que des écoles dans lesquelles plus de 15% des élèves avaient une autre langue familiale que le français étaient considérées comme plurilingues, ce qui met le seuil très bas. Elle a interrogé 41 enseignants et enseignantes et réalisé des entretiens. En gros, elle a demandé aux enseignants de lui dire quels élèves étaient en contact à la maison avec d'autres langues que le français. Donc, sur que je dise pas de bêtises, sur 139 élèves ont été déclarés par ces 41 enseignants comme en contact avec d'autres langues à la maison. Donc, on va maintenant voir que sur la façon dont les enseignants attribuent ou non la qualité de bilingue aux élèves dont ils disent qu'ils ont des pratiques bilingues, en gros, hein, c'est-à-dire qu'ils utilisent à la maison à différents niveaux une langue autre que le français, en plus du français, à l'école au moins. Donc on voit que, je ne sais pas si vous voyez ici, oui ça va, on voit, on a Véronique Nantes a classé les langues en trois groupes. Des langues qu'on peut considérer comme des langues plutôt dévalorisées dans le système scolaire et en France globalement, donc langues du Maghreb, le turc et des langues africaines. Des langues qui sont ni très valorisées ni très dévalorisées, c'est des langues qui sont très peu enseignées dans le système scolaire français, ou en tout cas dans les écoles, dans les collèges grenoblois notamment. Donc il y a le portugais, le russe, le suédois, il y avait aussi le néerlandais par exemple. Donc, ce sont des langues un peu neutres, hein, qui ne bénéficient ni d'un prestige international, ni d'une stigmatisation locale. Et puis un troisième groupe de langues qui sont considérées, elles, comme prestigieuses, qui sont massivement enseignées, avec bien sûr une prééminence de l'anglais. Et Véronique a décidé d'inclure dans cette catégorie l'italien, qui bénéficie à Grenoble d'une situation un peu particulière du fait d'une immigration, d'une histoire commune avec l'immigration italienne très importante, qui fait que l'italien est très enseigné à Grenoble et n'a sans doute pas le même statut que dans d'autres villes en France ou régions en France. Donc ce qu'on peut remarquer sur ce graphique, hein, c'est que parmi les 81 élèves qui parlent des langues du groupe 1, c'est-à-dire les langues d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne ou le turc, 66, donc 81%, ne sont pas considérés comme bilingues par les enseignants. Cette proportion tombe à... il n'y a que 17% qui sont considérés comme bilingues. Pour les 30 élèves qui parlent à la maison des langues valorisées et bien représentées dans le système scolaire, 47% sont considérés comme bilingues et 53% sont pas considérés comme bilingues et 53% eux sont considérés comme bilingues. Et enfin, pour les 28 enfants qui parlent des langues intermédiaires, langues du groupe 2, qui sont peu ou pas enseignées, 64% se voient attribuer la qualité de bilingue. Ne se voit attribuer la qualité de bilingue, ne se voit pas, Moi, je ne vois pas là. Et donc la différence entre ces proportions est statistiquement significative. Et là où donc là cette première statistique, Véronique l'a réalisée sans tenir compte du niveau de compétence décrit par les enseignants. C'est simplement ils parlent une autre langue à la maison ou ils utilisent une autre langue à la maison. Et la statistique suivante qu'elle a réalisée, c'était pour permettre une analyse plus fine du lien que font les enseignants entre niveau et modalité de pratique de la langue familiale et leur disposition à les considérer comme bilingues. Donc là, elle ne s'est intéressée qu'aux élèves qui sont dont les enseignants rapportent des pratiques de niveau 3, c'est-à-dire qu'ils comprennent et parlent la langue familiale. Hein, il y avait en gros 4 niveaux de pratique. Il y a une langue présente, mais ils ne parlent pas ni ne comprennent. Il y a une langue qu'ils comprennent, mais ne parlent pas. Ou cette langue, ils la parlent et la comprennent. En gros, voilà. Donc ici, cette statistique, ce sont uniquement les élèves dont les enseignants rapportent des compétences de niveau 3, c'est-à-dire qu'ils parlent et comprennent la langue familiale. Et ici, on voit que plus de la moitié des élèves dont les enseignants rapportent qu'ils comprennent et parlent la langue familiale ne sont pas considérés comme bilingues. Hein, on voit que la proportion de non-bilingues chez les locuteurs des langues de groupe 1 est très faible, et de non-bilingues est très haute, pardon. Et inversement, la proportion de bilingues chez les locuteurs d'anglais, d'allemand, d'espagnol et d'italien est beaucoup plus forte, ce à compétence égale, hein, à compétence rapportée par ces mêmes enseignants qui jugent. Donc ici, il y a une corrélation inverse entre le type de langue familiale et l'attribution de la qualité de bilingue. Les élèves qui ne sont pas catégorisés comme bilingues ici, sont donc ceux qui parlent des langues peu valorisées ou dévalorisées. Ça renforce les autres résultats que Véronique Nantes a obtenus et montre que ces enfants, mais ils sont vraiment l'objet d'une minoration et que leurs compétences ne sont pas reconnues. Alors, on voit que de façon relativement indépendante aux compétences des élèves, leurs ressources langagières ont une valeur différente et on retrouve bien ce que Bourdieu écrivait dans son article sur l'économie des échanges linguistiques, c'est-à-dire qu'une langue vaut ce que valent ceux qui la parlent, hein, donc pouvoir d'autorité, c'est-à-dire le pouvoir d'autorité dans les rapports de force économiques et culturels des détenteurs de la compétence correspondante. Ici, les descendants de migrants. Alors, quand on dit descendants de migrants, c'est pas forcément des descendants de migrants dits de première génération, de deuxième génération, mais on voit qu'ils sont encore marqués en quelque sorte par cet aspect-là, cet aspect de migration qui va discréditer en quelque sorte ou dévaloriser leur pratique. Donc là, pour l'instant, je me suis concentré sur les aspects, je dirais, interlinguistiques. Et si on s'intéresse maintenant aux aspects intralinguistiques, eh bien, on va observer un peu le même type de phénomène. Daniel Coste écrivait dans une postface un numéro de l'IDIL intitulé « Médiation et altérité » que la relation à l'autre catégorisée officiellement comme étranger met en évidence des fonctionnements ou des défauts qui valent tout autant pour des formes d'altérité qui ne sont pas qualifiées comme telles. En d'autres mots, ce que ces discriminations ou ces inégalités qui sont créées sur la base de la hiérarchisation des langues, de langues différentes, on va les retrouver également sur la base de manières ou de façons de parler différemment une même langue, en l'occurrence le français. Donc ici, à ces hiérarchisations qui sont relativement indépendantes des ressources elles-mêmes, enfin des ressources effectives, on trouve aussi bien sûr des différences qui vont être liées aux ressources de départ, c'est-à-dire aux ressources dont sont porteurs des enfants lorsqu'ils deviennent des élèves, lorsqu'ils entrent à l'école. Bien sûr, en fonction du type de socialisation, ils ne vont pas arriver avec les mêmes niveaux, les mêmes répertoires verbaux et compétences de communication. Un des éléments où se joue beaucoup de choses, c'est le rapport, la compétence d'une part, mais aussi le rapport à la langue de l'école, à la langue de scolarisation. Et là, on pense bien sûr aux élèves nouvellement arrivés, aux élèves allophones nouvellement arrivés. Un autre aspect qui joue évidemment, c'est le type et le degré d'acculturation à l'écrit, les compétences d'une part en lecture-écriture, et le rapport à la littératie qui a été acquise dans la famille. Et puis enfin, un autre aspect, c'est la perception des attentes scolaires en matière de compétences et de conduite langagière, et les représentations que peuvent avoir certains enfants des façons de parler attendues, et notamment la façon de parler des instituteurs ou des institutrices ou des professeurs des écoles. Sans transition, je m'arrive donc à la quatrième partie conclusive sur les pistes de formation. Sur les pistes de formation, je parlerai assez peu ici des aspects interlinguistiques. Je pense qu'ils seront plus abordés par à la fois par Jean-François de Pietro, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, sur les approches plurielles, et peut-être par Marinette Mathé aussi. Donc, j'ai cru lire en tant que formateur, intervenant ou étant intervenu dans des masters MEF, MES il y a quelques années et MEF plus récemment, on peut dire que, pardon, il n'y a pas grand-chose dans la formation initiale des enseignants dans le cadre de ces master MEF. Et que, au vu des derniers cadrages, en tout cas grenoblois, on ne s'achemine pas vers beaucoup plus de choses pour justement réfléchir sur ces questions d'inégalité, de diversité. En tout cas, je parle pour ce qui se passe à l'Université de Grenoble, à l'ESPE de Grenoble. Donc les formations, elles se déroulent bien souvent sous forme de stages, de formations continuées comme celles qu'on est en train de auxquelles on est en train de participer aujourd'hui. Elles ont lieu aussi très souvent pour des enseignants qui font des reprises d'études, qui préparent des certifications, donc qui sont un peu autodidactes et qui se forment pour préparer un... Vous voulez que je relance le son ou pas? Ouais.
Ils disent pas comme ça, ils racontent bien et tout. Et bah, il y avait un homme qui avait la
parole. Moi, je suis à fond.
Ils ont rigolé et tout.
Bon, on fait un peu. Ça va, vous entendez là? Je relance. Allez, on y va.
Ils disent pas comme ça, ils racontent bien et tout. Et bah, il y avait un homme qui avait la parole. Ils ont rigolé et tout.
Donc là, les filles sont en train devaient raconter Barbe Bleue, hein, et raconter le récit qui avait été fait de Barbe Bleue. Et donc là, dans ce premier petit extrait très court, ils disent, les maîtresses, ils parlent pas comme ça, ils parlent bien.
Ils disent pas comme ça, ils racontent bien et tout. Et bah, il y avait un homme qui avait la Barbe Bleue, ils ont rigolé et tout.
Donc c'est ce qui me semble intéressant, on l'entend un petit peu là, mais on l'entend mieux dans les extraits suivants.
Je trouve qu'on n'a pas fait comme des maîtresses, parce que les maîtresses, ils parlent pas comme nous,
ils font un peu leur malin.
En plus, ils savent tout, on n'a pas des trous quand ils parlent, les maîtresses. Ouais.
Ouais, puis ils ont une voix bizarre.
Donc les maîtresses, ils savent tout, ils racontent bien et ils font un peu leur malin. Ouais, donc je trouvais intéressant, ils font un peu leur malin. Donc on a un télescopage ici entre des formes langagières enfantines avec des variations sur la syntaxe, les accords, etc. Donc très très classique. Hein. Et puis aussi, il me semble une capacité à identifier des éléments langagiers chez l'autre et à les styliser, c'est-à-dire à les imiter plus ou moins bien, mais en tout cas à se déplacer et à entrer dans un rôle autre dans le jeu de stylisation. Donc, et on entend à nouveau bien ça, au point de vue prosodique, dans le troisième extrait.
Bonjour, je suis votre patronne, ma banane et Anna.
Je vous le remets.
Bonjour, je suis votre patronne, ma banane et Anna.
Voilà. Donc on est à nouveau, donc bonjour, je suis votre remplaçante, je m'appelle Nani Nana, avec cette prosodie très didactique hein, que les gamines utilisent là. Donc je j'ai pas trop le temps de développer cet aspect, mais peut-être un tout petit peu dans la conclusion, ces aspects de variation stylistique, c'est-à-dire d'enseignement non pas seulement de formes linguistiques légitimes, normées, standards, mais la capacité à pouvoir se mouvoir entre ces styles et surtout à comprendre les effets sociolinguistiques, les effets sociaux des choix que l'on opère, nous paraîtrait une piste intéressante qu'on est en train d'explorer, de commencer à explorer avec des petits... avec Lucille Cagnon qui est là, que Laurence Buzon a pas mal exploré dans sa thèse aussi, et en montrant notamment qu'il existe vraiment un écart entre la capacité à produire de la stylisation, de la variation stylistique, tant au point de vue phonétique que syntaxique que lexical, et puis la capacité méta, c'est-à-dire la capacité à verbaliser ça. En gros, la différence entre le méta et l'épilinguistique, quoi. Mais il y a vraiment elle montre une croissance forte de cette compétence à verbaliser, et c'est cette croissance-là qui pourrait sans doute être accompagnée par un travail scolaire plus formel. Je clôt là-dessus et j'en reviens aux formations. Donc, je disais que les formations, elles se déroulent dans ce type d'initiatives ponctuelles. Elles peuvent se dérouler comme Patricia l'avait mis en place dans le cadre d'une convention avec un lycée professionnel dont tu vas parler peut-être un petit peu, mais voilà. C'est-à-dire avec vraiment un partenariat entre des chercheurs et des établissements scolaires. Et puis, ce travail notamment, et les formations auxquelles nous avions participé dans ce cadre-là, qui étaient souvent des sessions de formation qui visaient à faire bouger les représentations, puisqu'on a, je pense, assez bien compris que beaucoup de choses se jouent sur ces représentations, pas uniquement, mais en tout cas au niveau des formateurs, hein, des enseignants, ces représentations étaient ancrées et que leur déstabilisation provoquait de fortes résistances, et qu'il fallait peut-être parfois, de la même façon que, et ça c'est Patricia qui l'écrivait aussi, de la même façon que l'éveil aux langues et au langage utilise la pédagogie du détour, utiliser la pédagogie du détour pour la formation d'enseignants, ça semble aussi une piste à envisager. Ce détour, je vais peut-être passer sur celle-là, ce détour, il me semble qu'il peut passer par des actions de co-recherche ou des recherches-actions impliquant à la fois des chercheurs et des enseignants, mais aussi des personnels et des élèves. Et je voulais signaler ici une enquête qui est en cours à Grenoble, en partenariat entre, pour l'instant, un établissement scolaire, le CASNAV et l'Académie, qui s'appelle PAG, Plurilinguisme à Grenoble, tout simplement, où cette initiative qui a pour but de mettre en évidence les répertoires verbaux et les pratiques effectives, non seulement des élèves d'un collège, on va dire, plurilingue et pluriethnique, entre guillemets, mais aussi les compétences des personnels, pas seulement administratifs ou enseignants, mais de tous les personnels, de façon à valoriser leurs ressources et éventuellement à utiliser ces ressources pour, par exemple, accueillir un élève allophone nouvellement arrivé, utiliser des compétences de médiation, de traduction, et donc valoriser des compétences chez des gens qui sont plurilingues, mais dont on n'a jamais vraiment mobilisé ni même identifié ces compétences. Donc c'est une initiative qui est en cours, qui est en route. La première enquête exploratoire a été réalisée, les questionnaires sont codés. Voilà, ça c'est en route. Et puis il y a aussi d'autres réflexions. Ce genre de travail avait été réalisé l'année dernière par Amélie Champal aussi sur un travail sur les biographies langagières des élèves en associant les enseignants. Et puis aussi une réflexion autour du lien école-parent et de l'implication des parents dans des actions, que ce soit des actions de recherche ou des actions de type plus didactique, pédagogique, et notamment en mobilisant les ressources langagières de ces parents. Voilà, et juste pour terminer, deux petites dias. Celle-ci de Thierry Thuot, qui est quand même l'auteur d'un pour montrer à quel point les représentations sont encore à travailler, auteur d'un rapport intitulé « La grande nation pour une société inclusive ». Donc l'idée d'inclusion, c'est bien l'idée qu'on accueille et qu'on s'adapte aux accueillis. On voit ici la métaphore que prend Thierry Thuot. Je ne crois pas que l'école doit être une sorte de service public que l'on oriente au gré des besoins politiques. Donc pour lui, la promotion de certaines langues familiales serait un besoin politique. Un jour, c'est la sécurité routière. Le lendemain, c'est manger des fruits et des légumes. Et le troisième jour, l'apprentissage de l'arabe pour une meilleure intégration. Donc vous voyez un peu le niveau ici de métaphore et de comparaison de la part de quelqu'un qui a quand même développé une sensibilité forte à l'altérité et qu'on peut pas soupçonner d'altérophobie, justement. Et je terminerai avec une citation de Himes qui me semble devrait nous guider un peu, nous linguistes, mais aussi enseignants ou formateurs, le fait que une partie des évidences, hein, comme je les appelais tout à l'heure, que nous partageons, on ne devrait jamais considérer qu'elles sont partagées par tout le monde, et on devrait toujours les remettre sur le tapis, en quelque sorte. Donc je vous laisse prendre connaissance de cette petite citation. Il parle d'anglais, mais il me semble qu'on peut largement transposer ça à la situation du français. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et j'espère pouvoir répondre à quelques questions.